pour continuer sur le paysage ou la toile de fond, moi je vous propose tout d'abord de regarder un petit film réalisé par Ridley Scott en
1924, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Bon, alors, je suis pas en train de faire de la publicité pour une quelconque marque d'ordinateur. Mais ce qui m'intéresse dans ce petit film, c'est l'idée que on a là les deux faces que l'on véhicule tous autour des mythologies de l'informatique. On a la face sombre, hein, vous avez bien repéré, système d'endoctrinement, des hommes qui marchent au pas dans des uniformes tristes, bleus, gris, n'ont plus de cheveux, on ne distingue pas si ce sont des hommes ou des femmes. Certains respirent avec des masques à oxygène. Voilà, et ils écoutent tous un discours qui est retransmis sur un grand écran et dans les couloirs aussi, dit sur des petites télévisions et dans des haut-parleurs. Et puis, il y a la part claire, la part de vie qui est symbolisée par cette jeune femme sportive qui court, qui arrive de la lumière et qui vient fracasser l'écran avec sa masse, hein, comme un lanceur de marteau presque, et qui, peut-être même qui libère les autres, pas bien sûr, mais bon. L'idée, c'est bien que autour de l'informatique, on a le meilleur comme le pire. Je vais le dire de façon assez simple. Un monde terrible et menaçant, hein, l'informatique qui a servi. Et puis, de l'autre côté, l'informatique qui libère. Et quand on travaille avec le numérique, avec les technologies de l'information, de la communication, avec les médias, on est en permanence, à notre insu, soumis à ces deux dimensions, d'une face sombre et d'une face noble. Je vous donne juste un exemple de quelque chose que je considère comme relevant de la face sombre. C'est une anecdote. Vous m'avez coupé mon micro. Ça, je peux parler fort, mais pour l'enregistrement, ça ne va pas leur plaire. Hein ? C'est revenu. C'est une anecdote que je dois à Pierre de Lyon, qui est pédopsychiatre à Lille, et qui raconte une visite qu'il fait dans des chambres d'une maternité. Il entre dans une chambre, la maman est en train d'allaiter son bébé nouveau-né, et en même temps, elle regarde la télévision, ce qui fait que l'enfant regarde le visage de sa mère, qui ne lui renvoie pas son regard, qui regarde dans une autre direction. Voilà ce qu'on pourrait repérer comme les faces sombres. Ça commence donc, me semble-t-il, dès le plus jeune âge, et ce n'est pas nécessairement l'enfant qui est coupable, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le mot qui... mais c'est l'enfant qui subit, en tout cas. Voilà un premier élément de cette toile de fond, et qui m'intéresse bien pour les questions éducatives, parce que finalement, ce qui nous anime en tant qu'éducateurs, qu'on soit éducateur professionnel ou qu'on soit parent ou grand-parent, tuteur, etc., c'est qu'on est aussi mobilisé par deux grands mouvements, une face noble et puis une face un peu moins noble ou un peu plus sombre, une part un peu plus sombre, un peu comme dans les mouvements qu'on a autour de ces représentations de l'informatique. Une face qui va nous amener à faire que l'autre puisse grandir et se passer de nous, l'amener vers l'autonomie, etc. Et puis une autre face, souvent moins développée, moins pensée, qui est de vouloir garder l'autre sous notre contrôle. Et tout notre travail d'éducateur s'articule entre ces deux mouvements de vouloir l'autonomie pour l'autre et de vouloir de l'empêcher, on pourrait dire, de grandir. Des mouvements de construction de l'autre en tant que sujet et des mouvements des mécanismes de déliaison ou de toute puissance. Le second élément qui concerne la toile de fond, ça concerne un rapport au temps. Le numérique favorise un rapport au temps et à l'espace articulé sur l'immédiateté et sur la permanence. On est dans du tout de suite, en quelque sorte. On a tous vécu ces idées autour d'immédiateté, du tout de suite. On s'agace quand un téléchargement est trop long. Moi, j'habite à la campagne, je n'ai pas le haut débit comme au bureau à l'université. Quand j'ai des collègues qui m'envoient des fichiers beaucoup trop longs et que je vois, ou mes enfants qui m'envoient des photos de mes petits-enfants, je vois le temps que mettent les photos à arriver sur mon écran. Je suis agacé. Bon, on est agacé par l'absence de réseau. Vous avez remarqué dans le train, on est venu en train tout à l'heure, des gens cherchent le réseau, même certains se déplacent dans le train, dans le wagon, en espérant attraper plus de réseau à certains endroits. On est dans l'immédiateté. À partir du moment où on envoie un courriel, un mail, on est persuadé que l'autre l'a lu et devrait déjà nous avoir répondu. Je vois des oui. On fonctionne tous un peu comme ça maintenant sur cette immédiateté et on ne comprend pas qu'un collègue ou un ami ou une relation n'ait pas répondu à notre mail qui était pourtant très important et urgent dans la demi-heure, dans l'heure ou dans la journée qui a suivi. Et puis on est également sur le mode de la permanence parce que il y a une photo sur les... Tiens, on peut peut-être mettre celle-là au passage. Comment on attend les transports en commun à quelques années d'intervalle. Alors, on lit le journal ou on lit le journal sur son téléphone. Il y a une grande différence tout de même, c'est que le journal du jour, si vous le laissez à la page 3 et que vous le reprenez le soir en repartant chez vous à la page 3, vous retrouvez le même journal. Le journal sur Internet, si vous l'avez consulté le matin, même la une, vous avez consulté le matin la une de Paris-Normandie, vous retournez le soir en rentrant chez vous, la une a été modifiée. Alors que si vous aviez acheté au kiosque, c'est le même journal. La page du journal, les forums, les environnements numériques de travail, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, etc., sont en permanence en évolution. Et quand vous vous reconnectez, le monde a évolué, le monde numérique a évolué pendant votre absence. Donc on a bien... En conséquence, on est, avec le numérique, soumis à un état d'urgence permanent. J'ai souvenir d'un étudiant qui voulait absolument se connecter dans une salle pour pouvoir accéder à des jeux vidéo. C'était l'université de Rennes 2 et ces accès n'étaient pas possibles, même dans les salles libre-service informatique, parce qu'il avait reçu un message sur son téléphone lui indiquant qu'il devait absolument se connecter sur ce jeu parce qu'il faisait partie... d'un groupe et qu'il avait une mission à accomplir à ce moment-là. Donc on est bien dans cet état d'urgence permanent. Ça pose... alors, tout à l'heure, on avait un parallèle avec la question de l'éducation sur la face sombre et la face noble. Là, ça va au contraire être antinomique avec le projet éducatif. Un projet éducatif, ce n'est pas pour tout de suite, maintenant. Tous les éducateurs, professionnels ou non, ont une action pour demain. Éduquer, c'est être dans un métier de l'anticipation ou du virtuel au sens où la graine, c'est le virtuel de l'arbre. C'est ce que ça peut devenir. On travaille maintenant, bien sûr. On travaille dans le présent, mais bien pour un futur à partir d'un passé. Voilà, deuxième élément de la toile de fond, je jette un œil sur le temps. Et dernier élément de la toile de fond qui est important à garder, c'est qu'on est sur un objet presque magique. Le numérique, l'informatique, l'ordinateur, Internet, le web 2.0, 3.0 maintenant peut-être, est considéré comme un objet magique, c'est-à-dire comme un objet qui serait en capacité de résoudre tous les problèmes du monde. Oui, plutôt celui-là. Résoudre tous les problèmes du monde, par exemple, par exemple, accéder à tous les savoirs du monde. Hein. Ça, c'est une affiche publicitaire qui est réalisée par le département des Landes à propos de son opération de prêt d'ordinateur portable aux collégiens. Alors, il y a toute une série d'affiches, et il y en a notamment une qui explique que l'accès à toute l'histoire, hein, tous les savoirs du monde, est possible à travers cette machine. Et l'autre point qui considère l'objet magique, c'est bien l'idée... Non, monsieur, oui, celui-là, c'était pour amuser, on peut le mettre, mais... L'autre point qui concerne l'objet magique, c'est que on va, en même temps, c'est ce qui concerne, ce qui nous intéresse pour le domaine de l'éducation, pouvoir remplacer l'enseignant, ou en tout cas pouvoir offrir à tous les apprenants la force de travail du meilleur enseignant ou du meilleur spécialiste d'un domaine. C'est Al Gore qui disait ça quand il était vice-président des États-Unis, avant qu'il s'occupe un peu d'écologie. Il disait, les États-Unis, c'est le plus grand pays du monde. Il était vice-président des États-Unis, il ne pouvait pas dire autre chose. Donc on a sans doute, dans chaque partie du savoir, dans chaque rayonnage des bibliothèques universitaires, on a sans doute dans chaque domaine le plus grand spécialiste du monde dans son domaine, qui chaque année, bon an mal an, donne des cours devant 50, 100, 200, 500 étudiants au maximum, ce qui est ridicule à l'échelle d'un pays comme les États-Unis. Il suffirait, disait Al Gore, de filmer le cours de ce meilleur enseignant, de le diffuser dans tous les amphis du pays pour que tous les étudiants bénéficient du cours du meilleur prof. Bon, si c'était aussi simple, d'abord, on aurait depuis longtemps sans doute adopté cette stratégie. Peut-être qu'on ferait des économies sur les budgets des universités, sur les budgets des lycées, mais ça ne marche pas comme ça. On est bien sur un mythe d'un objet magique. Parce qu'on est sans doute sur une confusion entre information, connaissance et savoir. On est sur l'idée qu'il suffit d'accéder à l'information pour qu'automatiquement le savoir, magiquement on pourrait dire, s'imprime dans la tête des apprenants, des internautes. Et on oublie souvent que le savoir, c'est une construction. Ça fait plus de 100 ans que Piaget a proposé cette théorie. Le savoir, c'est une construction, et pour l'instant, aucun psychologue qui travaille sur le développement de l'intelligence ou du savoir n'a remis en cause ce paradigme. On a complété, mais on ne l'a pas remis en cause. À partir du moment où il y a savoir, c'est que l'apprenant a construit quelque chose avec les informations et les connaissances qu'on lui mettait à disposition, et avec son histoire, avec les savoirs précédents qu'il avait déjà. C'est un discours qu'on entend assez fréquemment actuellement autour de cette question des digital natives, c'est-à-dire des jeunes. Il suffirait d'être né avec le numérique pour apprendre différemment et ne pas avoir besoin d'un enseignement ou d'une éducation aux médias ou au numérique. Alors, tous les travaux scientifiques démontrent le contraire. On est là réellement sur une idéologie, d'abord qui considère les jeunes comme un groupe, une entité qui serait unie, semblable, Tout à l'heure, les diapositives ont bien montré qu'il y avait des différences entre dans les usages et les pratiques en fonction de l'âge, bien sûr, en fonction des classes sociales, en fonction des revenus des parents. Souvent, ça peut regrouper aussi classes sociales. Des recherches, par exemple, sur les compétences en informatique de base, pas des compétences en informatique pour devenir informaticien, des compétences dans l'usage de l'informatique. À l'université, à l'entrée à l'université, on a montré que les étudiants dont les parents sont dans les catégories socio-professionnelles les plus élevées ont le plus de compétences sur les usages ordinaires de l'informatique. De même, les usages des garçons et les usages des filles sont différents. On y reviendra sans doute plus tard sur comment on se construit à l'adolescence avec le numérique. Et considérer les jeunes comme une entité globale et qui seraient tombés dedans quand ils étaient petits et pour lesquels il n'y aurait plus rien à enseigner, est à mon avis une idée plutôt dangereuse.